Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Bonjour à toutes et à tous. Un nouveau coin de ciel, et peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous faire une confidence. J'aime promener coin de ciel, à savoir faire un petit voyage en dehors de Fribourg. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le Jura. Les Jurassiens, ils voudraient bien qu'il y ait une sainte dans leur pays. Alors, on va peut-être aller voir s'il y a une candidate. À tout de suite. Ils me marient, mais moi je ne me marie pas. Il faut en avoir du tempérament pour s'opposer à 15 ans aux ordres de ses parents. Mais qui est cette jeune fille aux décisions si bien arrêtées? Mon invité de ce matin est Martin Nicoulin. Il a récemment publié un livre aux éditions Saint-Augustin, Jeanne de la Bosse, une sainte du Jura. Née le 15 août 1596 à Seignelégier, elle n'a que 29 ans lorsqu'elle meurt le 6 décembre 1625. 400 ans plus tard, on se souvient toujours et encore de cette franc-montagnarde. Martin Nicoulin, bonjour et merci d'être venu nous parler de cette jeune femme qui vous a beaucoup marqué. Normal, puisque vos propres origines sont jurassiennes. Pour commencer, pouvez-vous nous faire un bref récit de ce coin de terre?
Alors, il s'agit actuellement du canton du Jura, mais à l'époque de cette Jeanne de la Bosse, c'était un coin du Jura qui était commandé par un prince-évêque, c'est-à-dire que l'évêque de Bâle habitait Porrentruy, mais il était en même temps le chef du gouvernement de cette région. Et c'est le Jura Nord qui, lui, est resté catholique, parce que, comme à Fribourg, un de ses princes-évêques a choisi les jésuites qui ont fait, comme à Fribourg, des établissements religieux, et puis il a réussi à maintenir le Jura Nord dans ce qu'on disait à l'époque, dans la foi catholique. Mais revenons à la Bosse. La Bosse est un petit hameau d'une commune qui s'appelle le Bémont. C'est là que va naître notre Jeanne, donc à la fin du XVIe siècle.
Alors, 12 ans après la mort de Jeanne, le père Parisot, un jésuite français, qui était son confesseur, a écrit une première biographie de 385 pages. A-t-il été celui par qui la notoriété de Jeanne a vu le jour et aussi traversé les siècles?
Oui, alors là vous avez raison, c'est certainement le livre du père Parisot qui a créé la notoriété de Jeanne de la Bosse. Mais imaginez, cette gamine, comme vous avez dit, j'adore la phrase, cette gamine nous occupe depuis des siècles et des siècles. Et à l'époque, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle plutôt, voilà un jésuite qui écrit deux volumes consacrés à la vie de cette dame qui meurt à 29 ans, une vie extrêmement brève. Cette gamine d'un petit hameau de 200 personnes, et bien voilà, on va publier son livre à Paris. Il faut parler un peu de la vie de cette Jeanne. Donc, elle naît, vous l'avez dit, en 1596. Le papa est un peu un chef politique de la communauté. C'était ce qu'on appelait un maître bourgeois. Et puis, il a des enfants. Il se marie même deux fois. Et il veut marier cette fille, comme ça se passait à l'époque, à l'âge de 15 ans. À ce moment-là, on était nubile. Et voilà que sa fille n'est pas d'accord. À 15 ans, On dit qu'on l'a traînée à l'église. Une chose est sûre, c'est qu'elle a dit « Il me marie, mais je ne me marie pas ». Et on a passé des heures et des heures, des inspections, des enquêtes pour savoir si elle avait couché avec son mari ou pas couché avec son mari. Elle n'a pas couché avec son mari et ça a duré 6 mois. Et à un moment donné, on a dit « mais ça ne va pas ». Et on fait des démarches auprès de l'archevêque de Besançon et auprès de l'évêque de Bâle, parce que le chef de l'évêque de Bâle, c'était l'archevêque de Besançon, pour savoir si vraiment, etc. Et on lui fait la vie dure. Et c'est peut-être ça qui, moi, m'étonne le plus, c'est qu'on... Mais on l'a maltraitée, cette gamine qui voulait rester fidèle à son rêve à elle, à son idéal de vie. C'est qu'à 7 ans, après avoir communié, elle dit « Moi, je veux rester vierge et me consacrer à Jésus-Christ ». Alors bien sûr que ça fait sourire au jour d'aujourd'hui, où le mot spirituel, on ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus que le mot sexuel, que cette petite gamine... qui décide à 7 ans, et ça c'est une phrase qui m'a aussi converti, je dirais, à l'admiration pour cette Jeanne de la Bosse, du fameux chanoine Boyade, qui dit « mais après tout, Mozart, à 7 ans, c'était déjà un génie, je ne vois pas pourquoi, à 7 ans, la sainteté ne peut pas vivre dans le cœur d'une jeune fille ». C'est ça, je trouve ça extraordinaire.
Jeanne quitte son mari, mais il faut bien qu'elle se trouve un endroit, un point de chute, comme on dirait aujourd'hui. Alors, elle fait quoi? Il faut qu'elle se trouve un couvent, mais il n'y en a pas à la Bosse, alors voilà.
Elle va vivre à la maison, et là on peut imaginer les luttes et tout. Et je pense quand même qu'à un moment donné, le curé du village, enfin de Seine-Légier, a dû dire, écoutez, il faut accepter... qu'elle entre en religion, comme on disait à l'époque. Et là encore, elle manifeste son tempérament de franc-montagnard. Alors Jeanne, elle choisit pourquoi le couvent de Pontarlier. Moi, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'à cette époque, Pontarlier, il faut peut-être savoir une chose, c'est que Pontarlier, à ce moment-là, n'est pas du tout une ville française. C'est... comme le dit Victor Hugo, une ville espagnole. Hein? Victor Hugo, il dit, ce siècle avait 2 ans et Besançon était encore une ville espagnole. Pontarlier a un couvent des Annonciades. Le premier couvent des Annonciades, la maison mère, est à Gênes, encore aujourd'hui. Et le deuxième couvent à l'extérieur est justement à Pontarlier. Et peut-être que entre... Pontarlier et Seine-Légier, franchement, en ligne droite, c'est pas si loin. Il y a juste le Doubs et la dépression. Hein. Et peut-être que des gens passaient à Pontarlier comme ils passaient à Seine-Légier et puis parlaient peut-être de ce nouveau couvent, de ces Annonciades. Enfin, toujours est-il qu'elle entre au couvent des Annonciades et j'ai toujours imaginé cette fille qui a été mariée, elle doit être regardée d'un drôle de regard, surtout, comme le dit son biographe, qu'elle était belle et surtout, elle avait le port non pas d'une fille de village, mais d'une princesse, vous voyez, la petite fille d'un hameau, de la Bosse, là, que quand elle était surtourière, au début donc de son aventure à Pontarlier, eh bien, on l'accompagne. Elle était toujours accompagnée par une sœur plus âgée, parce que j'adore la phrase « les garçons n'arrêtaient pas de la muqueter ». Ça veut dire, on dirait aujourd'hui, de la mater. Hein?
Nicolin, curieusement, avec l'accord de ses parents, eux qui la forçaient à se marier, elle peut rentrer au couvent. Comment a-t-elle vécu dans ce milieu qui était une communauté cloîtrée ?
cette gamine, je reviens à cette expression, puis ça me la rend sympathique, cette gamine qui arrive, qui a 20 ans, avec la réputation d'avoir été mariée, puis ce mystère, dans un couvent cloîtré, vous imaginez comment elle a été regardée de travers. Et en plus, elle décide d'être non pas religieuse de cœur, mais sœur converse, c'est-à-dire domestique des sœurs de cœur, celle qui faisait la cuisine, celle qui était à l'infirmerie, qui était au jardin, etc. Et on raconte qu'elle faisait ça, mais avec une perfection, une rapidité, que tout le monde était jalouse, avec toujours ce mystère, a-t-elle connu vraiment son mari, quoi, voilà. Et elle va vivre pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on lui met une autre religieuse pour surveiller ses lectures et on lui explique ce qu'elle doit lire. Elle a supporté ça, paraît-il, toujours avec calme, avec sourire, que ça étonnait les gens. Mais quand elle dit « moi », quand, je dirais, la grande crise, la grande épreuve, elle est passée. Elle dit, mais... Et on l'a même exorcisée. Vous imaginez l'ambiance. Sa chance, c'est que les jésuites qui sont en mission par la Franche-Comté, ou bien par la Provence, ils allaient beaucoup à Carpentras, ces jésuites, c'était les états du pape. Hein. Alors là, les jésuites, il y en a un, mais il y en a d'autres. On parle aussi du père provincial des jésuites de France, qui la voit, on l'examine, etc. Alors, le père Parizeau le dit dans son livre, mais c'était, et voilà encore une admiration pour moi, pour cette femme durassienne, que c'était probablement la fille la plus savante et la plus illuminée de son temps, vous imaginez. Il paraît qu'elle vous expliquait le mystère de la Sainte Trinité, mais mieux que les théologiens de Dole, ou bien justement de Carpentras. Et alors, il y en a un qui dit, mais vous arrêtez, ce n'est pas une sorcière, elle risquait après tout l'échafaud, mais c'est une mystique, cette Jeanne de la Bosse. Et elle est restée imperturbable. Après, sa vie va changer, c'est clair, hein, mais elle sera toujours un peu regardée de travers. Mais par exemple, moi des choses qui m'ont toujours admiré, c'est, on lui dit, mais écoutez, sœur Jeanne, pourquoi vous appelez Jeanne et qu'on voit manifestement que vous préférez Jeanne à Saint-Pierre? Puis elle répond, mais écoutez, avant de mourir, vous voyez, la franc-montagnarde, donc elle avait du génie, puis c'est tout, dit, mais écoutez, Jésus, avant de mourir, se fait remplacer par l'apôtre Jean en disant à Marie, tiens, voilà ton fils, etc. Et notre Jeanne à nous répond, et à ce que je sache, Marie est supérieure à Saint-Pierre. Vous imaginez, mais pour les gens, c'était un génie, une sainte. Alors,
oui, elle s'appelait Jeanne, mais elle n'a pas changé de nom, elle ne s'est pas appelée Marie à Sainte. Pourquoi y a Sainte, alors? Elle aurait mieux fait de s'appeler Marie-Jeanne.
Oui, alors ma foi, écoutez, quand on entrait, je crois, dans la vie religieuse, on changeait de nom. Marie, en général, chez les Annonciades, c'était toujours Marie. Et Hyacinthe, c'était elle qui semble choisir ce prénom qui faisait une superbe synthèse entre, par exemple, des choses qui m'ont frappé. Quand elle dit « Moi, je n'ai pas mené une vie de lièvre ». J'avais pas peur, comme mes consoeurs du jugement dernier, qui tremblaient à chaque parole qu'elles disaient ou à chaque acte qu'elles accomplissaient. Donc, elle avait une confiance. C'est ça qui me frappe chez elle. C'était une femme, pas heureuse, je ne sais pas, mais dans la joie. Quand on en donne ce compliment, que cette femme savait récurer les pots mieux que meilleur, la cuisine, mais qui en même temps sa vraie joie, c'était de voir ses consoeurs heureuse et d'observer la règle. Et on dit même, quand elle voyait une de ses consœurs malheureuse, elle allait près de la supérieure et elle demandait la permission de pouvoir parler avec elle. Vous imaginez ce sens de la pastorale, parce que d'homme à homme, de femme à femme, je veux dire de relations humaines, tout le reste c'est du blablabla. Et notre Jeanne avait encore cette qualité extraordinaire. Oui, je veux mot mystique, je crois qu'elle, Parisot le dit, elle vivait déjà comme une habitante du paradis. Elle tutoyait, elle dit « j'avais deux anges gardiens ». C'est qu'une fois, elle va dire à sa mère supérieure, parce que les sœurs conversent, les sœurs domestiques, comme je dis, ne communiaient qu'une fois par semaine, tandis que les autres, elles communiaient tous les jours avec leurs beaux habits. Et elle dit « mais ma sœur, pourquoi nous ne communions qu'une fois par semaine ? Est-ce le rang qui compte ou la pureté du cœur ?» Mais si cette phrase est vraie, mais franchement, elle avait des siècles d'avance, même sur la Révolution française.
Martin-Nicolas, savez-vous si Jeanne a déjà fait des miracles ?
Oui, alors moi, ça, j'ai pas creusé. La présidente de l'association Jeanne de la Bosse a raconté, je le mets entre guillemets, mais enfin, le miracle vécu par son papa. Et son papa, c'est pas n'importe qui, c'était un ingénieur de première classe qui a fait des autoroutes en Suisse, qui a fait des routes en Iran, qui a fait des routes en Algérie et qui lui raconte, et moi je l'ai entendu raconter le 14 septembre 2014, quand on a relancé la dévotion à Jeanne, l'accident qu'il avait vécu, un tracteur, une je sais pas quoi, c'était pas des tracteurs, mais c'était presque des locomotives qu'on utilisait pour labourer les champs lors de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait en Suisse le plan Wallen, etc. Et lui, eh bien, la charrue et puis la chaîne de la limousine lui passe sur la jambe. Et sa tante, à la Bosse, dans la maison de la Jeanne, sa tante dit « Écoute, c'est l'heure, tu vas à la messe à Saint-Légier. Ouais. Pars à pied. » Et puis, elle, pendant ce temps-là, elle prie, on dit « Jeanne de la Bosse ». Voilà des choses qu'on raconte, hein. ce n'est pas du sucre doré. Voilà, on le racontait, je me rappelle, le plus naturellement du monde, et elle le raconte. Et lui, donc quand il relance en 2014, il raconte solennellement, avant la bénédiction du tableau, après la messe, il raconte solennellement cette aventure, et c'est seulement à l'âge de 90 ans qu'il s'est rendu compte qu'il boitait un petit peu, puis que les médecins lui ont dit « ma foi, on n'arrive pas à expliquer ». Pourquoi c'est pas plus abîmé que ça ? Pour lui, c'est clair, c'est un miracle.
Vous direz que c'est aussi vrai pour moi. C'est une intervention divine.
En tout cas, la tante de ce jeune homme, qui était un futur ingénieur, qui était étudiant à Zurich, l'envoie à la messe à Saint-Léger à 8 heures, et lui, il part à pied, il revient. Pendant ce temps-là, on raconte qu'elle priait justement sœur Jeanne, qui était la sainte, canonisée par le peuple, la sainte de la Bosse.
En 1719, un premier oratoire qui est construit à Saint-Légier, mais aujourd'hui c'est une vraie chapelle, et cette chapelle, c'est la fierté des habitants.
Vous avez employé une phrase qui, moi, m'a beaucoup touché. Je me rappelle, là on est en juin 2016, je fais cette conférence dans la maison natale de Jeanne, il y a beaucoup de monde, et moi, tout à coup, je vais parler de cette Jeanne. Et là, inspiration, divine ou humaine, je suis là et je dis, maintenant je vais vous dire, cette gamine, elle passionne le Jura depuis des siècles. Et puis j'ai commencé de faire la liturgie des dates, j'ai dit, bon voilà, elle naît en 1596. Eh bien, sur son acte de naissance que j'ai lu, donc écrit officiellement, son acte de baptême plutôt, c'est marqué, 50 ans plus tard, « Ec beata habitur ». Ça veut dire que le curé, 50 ans plus tard, ou un des curés, a écrit, et on la prend pour une bienheureuse. Déjà, vous voyez, cette réputation de sainteté, à mon avis, c'est après le livre de Parisot, ça. Hein? Maintenant, je vais encore vous faire une confidence. On n'en finit pas. En 1700 et quelque chose, je tombe sur un livre. Écoutez, le dictionnaire des saints, canonisé ou pas canonisé, mais des saints célèbres de l'Église catholique depuis le commencement. Bon, ben, j'ouvre ça, le tome 4, je crois. Je me dis, mais il n'y aura pas Jeanne. Ou alors, le livre était fait comme ça. Pour chaque jour, il y avait deux saints choisis. Et sur deux pages, on racontait la vie de ce saint. Et puis après, c'était des listes de noms, des listes de noms. Ben, je dis, il sera peut-être dans la liste sous la date du 6 décembre. Donc, l'âge de son entrée dans la vie au ciel, c'est marqué Jeanne de la Bosse. Et on te dit que la Bosse est là-bas, dans l'évêché de Bâle, qu'il y avait une petite fille, l'histoire du mariage, qui avait deux anges gardiens, c'est là où j'ai pris ça. On raconte sa vie. Et puis après, il y avait une injonction de prière. Ce qui veut dire, elle était pas seulement célèbre à la Bosse, hein, en 1700 et quelque chose, elle était célèbre dans toute l'Église romaine de langue française. Hein. Et ça, ça m'a fasciné. Ou bien, quand je m'intéressais à cette histoire, une fois sur Internet, je trouve un texte en italien. Et ce texte en italien, ça avait été publié à Rome, il y a 20 ans, pas plus, sur la vie, justement, de sœur Marie Hyacinthe, qui était en odeur de sainteté. Puis j'appelle, c'était le vrai couvent, la fondation, à Gênes, en Italie, et je tombe sur un prêtre. Puis je lui dis, écoutez, voilà mon problème. Moi, je m'intéresse à cette Jeanne de la Bosse, puis j'ai vu que vous avez fait un livre sur les Annonciades, et vous faites de nouveau 2-3 pages sur la vie de cette religieuse, etc., en italien. Comment vous êtes appuyé sur des documents? Comment ça, etc. Alors, il savait des choses que moi, je savais, hein, Parisot, mais lui, il avait accès dans les documents aux archives de la congrégation. Puis il m'a dit, bah, dans les archives de la congrégation, on publie d'autres documents. Donc, par exemple, qu'un doge à Gênes, c'était l'Italie, ben, un futur doge, qui s'appelait Centurion, était ambassadeur de Gênes en France, et qu'il a entendu parler de l'histoire de cette Jeanne de la Bosse Annonciade. Donc la maison mère était à Gênes, donc c'était quelque part un peu sa fille aussi spirituelle, je veux dire, et qui a écrit, d'après ce qu'on m'a dit, c'était probablement la fille la plus intelligente de son temps. Elle vivait avec toujours Dieu en elle, donc cette mystique. À Genova, il y a encore des choses qu'il faut, je dirais, personnellement, je voudrais encore découvrir d'autres documents. Il doit y en avoir encore sur cette religieuse. Et puis, je reviens à ce que je vous disais, donc il y a l'acte de naissance, il y a Parisot. Après 1719, on fait l'oratoire, cet oratoire, et moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est qu'aux archives de Saint-Légier, il y a des archives, des textes sur cette chapelle, sur cet oratoire. Eh bien, tout de suite après la construction de l'oratoire, on célébrait le 24 mai la fête déjà de Sainte-Jeanne, c'est écrit comme ça. Donc ça veut dire, le souvenir, la dévotion, elle est dans le cœur des gens depuis très, très longtemps, et ça continue. Non, donc elle a toujours eu cette personnalité, mais je crois qu'en même temps, elle avait, une grande humilité. Enfin, moi, c'est vrai que pour rédiger ce petit livre, j'ai relu... Enfin, le mot exact, c'est exultate, etc., la lettre apostolique du pape sur l'appel à la sainteté de tout le monde. Hein. Mais c'est presque... On a l'impression qu'il a réfléchi au destin de cette Jeanne pour écrire les phrases qu'il écrit, que tout le monde a appelé à la sainteté, qu'il faut avoir de l'humilité, qu'il faut faire, même dans les petites choses, les choses les plus perfectionnées, enfin, et puis surtout la charité avec les autres. Moi, ça m'a sidéré, voilà.
1719, il y a l'oratoire. 50 ans plus tard, en 1769, il y a un autre événement qui est important à souligner.
Qui était un Girardin de la Beauce et qui fait fondre une cloche en l'honneur de Jeanne de la Beauce. Après, vous avez l'aventure de la Grande Chapelle, quand même, où je connais toutes les dates. J'ai trouvé le premier rappel dans le journal, écrit par ce Éloi Froidevaux, qui était un type extraordinaire, hein, qui était un maire, et ben qui va construire cette chapelle et qui s'était fâché parce qu'à l'époque, c'était plutôt, religieusement parlant, le courant populaire de Notre-Dame de Lourdes. Mais malin comme il était, il écrit un texte, il dit « Oh, mais enfin, on voit bientôt plus notre Jeanne avec cette Notre-Dame de Lourdes entourée de fleurs, etc. » Mais je trouve ça formidable. Ça veut dire que notre chapelle, elle est trop petite et qu'il faut... Il n'a pas voulu jouer la concurrence. Il les a mariés les deux. Et puis comme ça, il a pu construire sa chapelle. En 1898, il y a l'inauguration de cette chapelle. Mmh. Et alors après, vous avez encore un autre gars, un Beuret d'ailleurs, qui était président de paroisse, qui va restaurer cette chapelle. Et la Confédération va entrer dans le jeu. Et on est en 1976. Et après, les deux grands textes qui relance Jeanne, c'est le professeur Pierre-Olivier Walzer, professeur de littérature française à l'Université de Berne, un homme connu dans toute la francophonie et qui écrivait même dans la collection La Pléiade à Paris, qui va écrire un superbe livre sur la vie des saints du Jura. Hein. Et là, il y a un texte superbe sur Jeanne de la Beauce. Puis alors après vient le grand texte qui pour moi m'a marqué, celui du chanoine Boyat. Le chanoine Boyat était professeur de philosophie au collège Saint-Charles à Porrentruy. C'était un chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice. Il avait été expert au concile. Et en 1983, on sait que Jean-Paul II va venir en Suisse et à Berne, et il dit... Quand même, un ancien expert du Concile, c'est ce qu'il raconte. Il a lu dans le texte original le livre de Parisot et il dit « Si le pape, donc Jean-Paul II, me demandait ce qu'il faudrait faire pour la Suisse et pour le Jura, je lui dirais de béatifier, enfin de déclarer bienheureuse, de commencer donc le processus de canonisation de Jeanne de la Beauce. » Alors, il y a encore un autre événement de notre siècle qui relance cette dévotion de Jeanne. C'est, comment dirais-je, l'action de cet ingénieur dont je vous ai parlé, de ce Pierre Froidevaux, qui va faire célébrer une messe, qui va faire le tableau qui figure dans le livre et qui figure dans la chapelle de la Beauce, de Marie-Dominique Miseret. Et puis, ma conférence, voilà. Et là, c'est là où j'ai fait trois fois la conférence, où je me rappelle, je fais ça le 14 septembre 2014, il y a le journal Le Pays, qui est là, le quotidien, pardon, il y a le quotidien jurassien, Le Pays n'existe plus. Eh bien, moi, j'étais frappé du monde. Et ça, c'est ma conviction, et j'espère encore vivre quelques temps pour, avec d'autres personnes, mettre sur les rails ce processus de cette Jeanne de la Beauce qui, pour moi, était probablement la fille la plus intelligente que le Jura ait connue.
Merci Martin Nicolas. Je rappelle le titre de votre livre « Jeanne de la Beauce, une sainte du Jura » aux éditions Saint-Augustin. À tous et à toutes, je souhaite un très très beau dimanche. Une bonne semaine, un excellent mois de novembre, et je vous dis à bientôt. C'était Sœur Marie-Pierre, au revoir, et merci de votre fidélité à Radio Fribourg aussi, évidemment.
Aimer, c'est tout donner. Fribourg,
Coin de ciel.